Lundi 14 mars. Mes livres ne reçoivent plus un regard. Je passe toutes mes journées à la fenêtre et quand on tombe le soir, je demeure à la même place. Elle n'est plus là, mais en fermant les yeux, je la vois quand même. Étrange. Ce journal est devenu tout autre que je ne me l'imaginais. Il évoque Madame Dubonnet et le commissaire, les araignées et Clarimonde. Pas une syllabe touchant les découvertes que je me promettais de faire. Est-ce ma faute ? Mardi 15 mars. Nous avons imaginé un jeu singulier, Clarimonde et moi, et il nous occupe toute la journée. Je la salue et elle me répond aussitôt. Ensuite, ma main tambourine contre la vitre et sitôt s'en aperçoit-elle que sa main tambourine en retour. J'incline la tête, elle aussi. Mes lèvres remuent comme si j'allais lui parler, elle m'imite. Puis, je balaye mes cheveux de la tempe et voici que sa main effleure son front. Un véritable jeu d'enfant dont nous en rions tous les deux. Ou plutôt, elle ne rit pas, précisément. C'est un sourire, doux et docile, qui glisse sur ses lèvres, exactement comme j'ai l'impression de sourire moi-même. Tout ceci n'est d'ailleurs pas aussi vain qu'il y paraît. Il ne s'agit pas d'une simple imitation, car je crois que nous en éprouverions vite un malaise. Une certaine transmission de pensée doit sans doute jouer un rôle dans ce phénomène. Clarimonde, en effet, suit mes mouvements en une fraction de seconde. À peine les perçoit-elle que déjà elle les reproduit, au point que parfois nos gestes respectifs paraissent simultanés. Je m'échauffe à imaginer constamment un nouveau geste inattendu, et il est stupéfiant de constater comment elle l'imite au même instant. Quelquefois, j'essaie de l'égarer en exécutant vite et successivement une série de mouvements différents, puis en les répétant et encore. Finalement, je reprends la même série une quatrième fois en modifiant toutefois l'ordre de succession des gestes, ou bien j'en exécute un autrement ou j'en passe un. Un peu comme des enfants qui joueraient à pigeon vol. C'est extraordinaire, mais Clarimonde ne fait jamais un mouvement à contre-temps, bien que je mélange les miens à un tel rythme qu'elle dispose à peine du temps matériel pour les reconnaître. Ainsi s'écoule ma journée. À aucun moment toutefois ne m'étreint l'impression que je gaspille mon temps. Bien au contraire, il me semble que je n'ai jamais rien fait de plus fondamental. Mercredi 16 mars. N'est-il pas insolite qu'il ne me vienne jamais sérieusement à l'esprit de situer mes relations avec Clarimonde sur des bases un tant soit peu raisonnables que ces amusements qui se prolongent des heures durant ? J'y songeais la nuit dernière. Il me suffirait de prendre mon chapeau et mon manteau et de descendre deux volées d'escalier. 5 pas pour traverser la rue, puis à nouveau 2 volées d'escalier. À la porte est épinglée une petite carte portant le nom de Clarimonde. Clarimonde comment ? Je ne sais, mais Clarimonde s'y trouve. Alors, je frapperai à la porte. Et ensuite ? Jusqu'à présent, je peux tout me représenter par le menu. Je vois les plus petits mouvements que je ferai. Mais quant à la suite, je ne puis m'en faire une idée. La porte s'ouvrira, ceci je le perçois encore, mais je demeure devant elle et considère l'intérieur, dans une obscurité qui ne permet pas de reconnaître la moindre chose. Elle ne vient pas. Rien ne vient. Il n'y a absolument rien là, si ce n'est cette obscurité noire, impénétrable. Il me semble parfois qu'il n'existe pas d'autre Clarimonde que celle que j'aperçois là, à sa fenêtre, et qui joue avec moi. Je ne puis me représenter l'aspect que revêtirait cette femme coiffée d'un chapeau ou vêtue d'une autre robe que sa robe noire mouchetée de grandes taches couleur lilas. Je ne puis déjà pas me la figurer sans ses gants. Si je devais la rencontrer en rue ou occupée à manger, à boire et à plaisanter dans un restaurant. Non, je dois franchement rire, tellement cette image me semble irréelle. En d'autres occasions, je me demande si je l'aime. À proprement parler, il m'est impossible de répondre à cette question, puisque je n'ai encore jamais aimé. Si pourtant le sentiment que j'éprouve pour Clarimonde est réellement de l'amour, il est alors bien différent de celui que j'ai observé chez mes compagnons, ou tel qu'on le décrit dans les romans. Il m'est très difficile d'analyser objectivement mes sensations. Il m'est d'ailleurs tout à fait malaisé de fixer mon attention sur quelque chose qui ne concerne pas Clarimonde, ou plutôt notre jeu. On ne peut en effet le nier. C'est en fait ce jeu qui m'envahit et rien d'autre. C'est ce phénomène-là que je comprends le moins. Clarimonde, oui, elle m'attire. Mais dans cette attirance même se cache un autre sentiment, comme si j'avais peur. Pas exactement de la peur, mais plutôt une timidité. Une légère crainte à l'égard de quelque chose que j'ignore. Cette crainte revêt justement des aspects à la fois singulièrement envoûtants et étrangement voluptueux, qui tour à tour me tiennent à distance et m'attirent. C'est comme si je courais en cercle autour d'elle, tantôt me rapprochant quelque peu, tantôt me retirant, courant plus loin, gagnant un autre endroit et revenant rapidement sur mes pas. Jusqu'au moment où il me faudra quand même, j'en ai la certitude, aller finalement jusqu'à elle. Clarimonde est assise à la fenêtre et file. Ses fils sont longs, fins, diaphanement fins. Elle en construit une trame dont je ne sais ce qu'il adviendra. Je ne puis comprendre comment elle peut élaborer ce réseau sans constamment mêler et rompre les fils. Des modèles bizarres surgissent dans son minutieux travail, animaux fabuleux et caricatures étranges. Mais qu'ai-je à écrire cela ? En fait, je ne puis absolument pas discerner ce qu'elle file, car son tissu est bien trop ténu. Pourtant, je sens que son œuvre est bien telle que je l'aperçois, en fermant les yeux. Elle est exactement telle, une grande toile grouillante de créatures, d'animaux fantastiques et de singulières figures grimaçantes. Jeudi 17 mars. Je me trouve dans un état d'étrange exaltation. Je ne dis plus un mot à personne. C'est à peine si je souhaite encore le bonjour à Madame Dubonnet et aux domestiques. Je prends juste le temps de me nourrir, et encore. Mon seul plaisir est de m'asseoir à la fenêtre et de jouer en sa compagnie. C'est un passe-temps exaltant, oui, vraiment. J'ai comme le sentiment qu'il se passera quelque chose demain. Vendredi 18 mars. Oui, il doit se passer quelque chose aujourd'hui. Je me dis à moi-même, en parlant haut pour entendre ma voix, que c'est pour cela que je me trouve ici. Mais le plus terrible, c'est que j'ai peur. Et à cette peur qu'il pourrait m'arriver quelque chose de semblable à ce qu'ont vécu mes prédécesseurs, se mêle étrangement l'autre peur, celle de Clarimonde. C'est à grand-peine que je peux la contenir. La terreur est en moi et je me retiens de crier. 18 heures. Vite, quelques mots. Le chapeau sur la tête et en manteau. À 5 heures, mes forces s'en allaient. Je suis sûr maintenant que cette situation doit avoir un lien avec cette sixième heure de l'avant-dernier jour de la semaine. Je ne ris plus maintenant du tour que j'ai joué au commissaire. Assis dans mon fauteuil, je m'y cramponnais violemment. Mais je me sentais attiré, comme aspiré par la fenêtre. Il me fallait jouer avec Clarimonde et ressentir ensuite cette affreuse vague de terreur devant la fenêtre. Je les voyais, suspendus, là. Le voyageur suisse énorme, le cou enflé, les joues envahies d'une forte barbe grise, près de lui l'artiste élancé et, quelque peu en dessous, le vigoureux sergent. Je les apercevais tous les trois accrochés au même crampon, la bouche béante et la langue pendante, apparaissant tantôt successivement, tantôt simultanément. Puis je me voyais moi-même au milieu d'eux. Oh, cette angoisse ! Je sentais bien qu'elle me possédait aussi bien quand je me trouvais devant la croisée et l'affreux crampon, là-haut, que face à Clarimonde. Qu'elle me pardonne, mais c'est ainsi. Dans ma honteuse crainte, son image se profilait constamment en filigrane parmi les trois qui se balançaient là et dont les jambes traînaient bas sur le plancher. C'est pourtant exact. À aucun moment, je n'éprouvais en moi un désir, une nostalgie de me pendre. Je n'avais d'ailleurs aucune crainte de me laisser aller à ce geste, non. C'est la fenêtre seule que je craignais. Et Clarimonde, quelque chose de terrifiant, d'inconnu, qui devrait se produire maintenant. J'éprouvais le désir passionné et irrépressible de me lever et de me diriger quand même vers la croisée, et je devais le faire. À ce moment retentit le téléphone. Je saisis l'écouteur et avant même d'écouter une seule parole, je criai moi-même « Venez, accourez tout de suite !» On eût dit que le hurlement de ma voix stridente avait fait s'engloutir dans le sol tous les voiles de mon esprit à l'instant même. Je m'apaisai aussitôt. J'essuyai la sueur qui perlait à mon front et bu un verre d'eau. Puis, je réfléchis à ce que je raconterais au commissaire lorsqu'il entrerait. Finalement, je me dirigeai vers la fenêtre, saluai et souris. Clarimonde me rendit ce salut et ce sourire. Le commissaire arriva 5 minutes plus tard. Je lui expliquai que l'affaire commençait à livrer ses secrets, qu'aujourd'hui encore il devrait m'épargner ses questions, mais que je serais certainement à même de lui faire prochainement d'étranges révélations. Étrange, au moment où je le mystifie ainsi, j'avais l'intime conviction de lui dire la vérité. Et je ressens encore les choses ainsi, maintenant, à l'encontre de ma conscience la plus profonde. Sans doute le commissaire remarqua-t-il mon singulier état d'esprit, surtout lorsque je tentais de m'excuser de mon cri angoissé au téléphone et de l'expliquer d'une façon naturelle, sans parvenir toutefois à inventer une explication sensée. Très courtoisement, il me déclara que je n'avais pas de souci à me faire à son sujet et qu'il se trouvait en permanence à ma disposition, car tel était son devoir. Il jugeait préférable de venir une douzaine de fois pour rien, plutôt que de se faire attendre à un moment où sa présence serait nécessaire. Il m'invita ensuite à sortir le soir même avec lui, pour me changer les idées. Cela ne me valait rien, disait-il, de demeurer constamment seul. J'acquiesçais, bien que ce me fût pénible. Je répugne à m'éloigner de cette chambre. Samedi 19 mars. Nous nous sommes baladés à la Gaîté Rochechouart, à la Cigale et à la Lune Rousse. Le commissaire avait raison. Cela m'a fait du bien de m'évader quelques heures de cette atmosphère et de respirer un autre air. Au début, j'ai éprouvé un sentiment assez pénible, comme si je commettais une injustice à la façon d'un déserteur qui tournerait le dos à l'étendard. Cette impression s'est graduellement estompée. Nous bûmes copieusement, en riant et en devisant. Ce matin, lorsque je m'approchais de la fenêtre, je crus lire dans le regard de Clarimonde comme un reproche. Peut-être est-ce pure imagination de ma part. D'où saurait-elle donc que j'ai passé la nuit dehors? D'ailleurs, ce fut l'affaire d'un instant fugitif. Bientôt, son sourire réapparut. Notre jeu s'est poursuivi toute la journée. Dimanche 20 mars. Je ne puis que noter à nouveau. Nous avons joué toute la journée. Lundi 21 mars. Nous avons joué toute la journée. Mardi 22 mars. Oui, nous avons encore joué aujourd'hui, joué et rien fait d'autre. Parfois je m'interroge. Pourquoi tout ceci? Pourquoi? Où cela doit-il mener? Mais jamais je ne m'accorde une réponse, car il est certain que je ne désire rien d'autre que cela. Et c'est à cela que j'aspire, qu'importe ce qui pourrait arriver. Nous avons échangé des paroles en ces jours. Des paroles muettes, bien entendu. Tantôt nos lèvres remuaient, tantôt nous nous contemplions seulement. Pourtant, nous nous sommes parfaitement compris. J'avais vu juste. Clarimonde m'a fait des reproches, touchant mon escapade de vendredi dernier. Je lui ai alors demandé pardon et j'ai reconnu que j'avais commis une sottise et que je m'étais rendu odieux. Elle m'a pardonné. Et je lui ai promis de ne plus jamais m'éloigner de cette fenêtre. Nous nous sommes embrassés en pressant longuement nos lèvres contre la vitre. Mercredi 23 mars. Je sais maintenant que je l'aime. Cela doit être ainsi. Elle me compénètre jusqu'à la moelle. Il se peut que l'amour d'autres personnes soit différent. Existe-t-il cependant une tête, une oreille même, une main qui soit identique à une autre tête, une autre oreille, une autre main, choisie parmi un milliard d'échantillons? Toutes sont différentes. Un amour peut-il dès lors être semblable en tout point à un autre amour? Mon amour à moi est très spécifique, j'en ai conscience. En est-il moins beau pour autant? Encore un peu et cet amour me rendrait heureux, s'il n'y avait pas l'angoisse. Parfois elle s'assoupit et en ces instants je l'oublie. Mais cette trêve ne dure que quelques minutes. Ensuite elle reprend vie et ne me lâche plus. Je la comparerais à une misérable petite souris se défendant contre un magnifique grand serpent, cherchant à se dégager de ses puits sans enlacement. Patience donc, ô sotte petite angoisse, bientôt ce grand amour te dévorera. Jeudi 24 mars. J'ai fait une découverte. Je ne joue pas avec Clarimonde. C'est elle qui joue avec moi. Hier soir, je songeais comme d'habitude à notre jeu. J'ai noté 5 nouvelles séries très compliquées, avec lesquelles je me promettais de la surprendre le lendemain. À chaque mouvement, j'avais affecté un numéro d'ordre. Je m'exerçais à les exécuter pour pouvoir être à même de les reproduire aussi vite que possible, dans l'ordre normal et inversé. Ensuite seulement les chiffres pairs, puis les chiffres impairs, ou les premiers et les derniers mouvements des 5 séries. Cette gymnastique intellectuelle était fort absorbante, mais elle me donna beaucoup de joie. Ne me rapprochait-elle pas de Clarimonde, même si je ne l'apercevais pas? Je me suis ainsi exercé durant des heures, et en fin de compte, tout fonctionnait comme sur des roulettes. Ce matin, donc, je m'approchais de la fenêtre. Nous nous dîmes bonjour et le jeu débuta. En avant, en arrière, c'était incroyable avec quelle vivacité elle me comprenait et répétait à l'instant même tout ce que je faisais. À ce moment, on frappa à la porte. Le domestique m'apportait mes bottes. Je les lui pris des mains, et tandis que je retournais à la fenêtre, mes yeux tombèrent sur la feuille sur laquelle j'avais inscrit mes séries. Et je constatai que je n'avais pas exécuté, il y a quelques instants, un seul des mouvements inscrits sur la feuille. J'en eus presque le vertige. Je m'agrippai au dossier du fauteuil et m'y laissai choir. Je n'en croyais pas mes yeux, et relus le billet à plusieurs reprises. Pourtant, il en était bien ainsi. Je venais d'exécuter à la fenêtre une série de mouvements, mais aucun des miens. Et de nouveau, le sentiment m'envahit que j'entrevoyais une porte qui s'entrebâillait de plus en plus largement, sa porte. Je demeure figé et ne perçois rien d'autre qu'une obscurité vide. Alors j'eus la certitude que si je sortais maintenant, je serais sauvé. Et il m'apparut bien que je pourrais sortir. Pourtant, je n'en fis rien. Et cela parce que j'avais l'impression très nette qu'il me fallait tenir, fermement, comme à deux mains, mon secret, ce secret qui me permettait de conquérir Paris. Un instant, mais un instant seulement, Paris fut plus fort que Clarimonde. Oh, maintenant, c'est à peine si j'y songe encore. Ne demeure plus que mon amour, et au cœur de cet amour, une angoisse tranquille, teintée de plaisir. Mais à ce moment où je songeais à Paris, cela me donna de la force. Je relus encore une fois ma première série et m'incrustai chaque mouvement dans le cerveau. Ensuite, je retournai à la fenêtre. J'analysai avec vigilance tout ce que je faisais. Pas un geste ne correspondait à ce que je voulais poser. Je décidai alors de toucher mon nez du bout de l'index, mais j'embrassai la vitre. Je voulus tambouriner sur la tablette de fenêtre, mais ma main courut dans mes cheveux. C'était donc clair, ce n'était pas Clarimonde qui imitait mes gestes. C'était bien davantage moi-même qui suivais ses injonctions et à une vitesse telle, comme l'éclair, à la seconde même, que même maintenant, je me leurrais encore parfois en pensant que c'était moi qui imposais ma volonté. C'est donc moi, si fier à l'idée de pouvoir influencer ses pensées, qui suis si pleinement envoûté. Cependant, si douce, si tendre est cette emprise, que je ne connaissais rien d'aussi bienfaisant. Je me suis livré encore à d'autres essais. Je me suis enfoui les mains dans les poches avec la ferme intention de ne pas les en retirer. Puis, je la contemplai. Je la vis lever sa main, sourire et me menacer doucement de l'index. Je ne bougeais pas. Je sentis que ma main droite tendait à sortir de ma poche, mais j'incrustais mes doigts dans la doublure, de toutes mes forces. Lentement alors, après plusieurs minutes, les doigts se relâchaient, la main sortait et le bras se levait. À mon tour, je menaçais de l'index et je souriais. On eût dit que ce n'était pas moi, mais un étranger qui agissait ainsi, tandis que je le regardais agir. Non, ce n'est pas cela. C'est moi qui agissais, et un étranger me regardait agir. Justement, l'étranger qui était si sûr de lui et qui désirait faire la grande, l'inédite découverte. Mais cet étranger, ce n'était pas moi. Que m'importe à moi cette découverte ? Je suis ici pour faire ce qu'elle, Clarimonde, veut que je fasse, car je l'aime envahie d'une angoisse délicieuse. Vendredi 25 mars. J'ai sectionné le fil téléphonique. J'en ai par-dessus la tête d'être constamment dérangé par ce niais de commissaire, au moment précis où s'annonce l'heure étrange. Mon Dieu, pourquoi est-ce que j'écris cela ? C'est complètement faux, on dirait que quelqu'un guide ma plume. Mais je veux écrire ici ce qui y est. Il m'en coûte un effort extrême. Pourtant, je veux faire, une fois encore, ce que moi je veux. J'ai sectionné le fil du téléphone, oui, parce que je le devais. Voilà, c'est enfin écrit, parce que je le devais. Nous étions à la fenêtre ce matin et nous jouions. Notre jeu a changé d'aspect depuis hier. Elle fait un mouvement et j'y résiste aussi longtemps qu'il m'est possible. Jusqu'au moment où finalement je cède et exécute machinalement ses propres gestes. Je ne puis exprimer le plaisir merveilleux que procure cette défaite, cette soumission à sa volonté. Nous étions en train de jouer, et voici que brusquement, elle se lève et retourne dans la pièce. Il faisait si sombre que je ne pouvais plus l'apercevoir. Elle paraissait dissoute dans le noir. Mais bientôt, elle ressurgit, portant dans les deux mains un téléphone, en tout point semblable au mien. Souriante, elle le déposa sur l'appui de fenêtre, se saisit d'un couteau, sectionna le fil et s'en fut reporter le téléphone. Pendant un quart d'heure, je me suis débattu. Mon angoisse était plus grande que jamais auparavant, mais d'autant plus délicieuse était cette soumission graduelle. Et finalement, j'apportai mon téléphone, tranchai le fil et replaçai l'appareil sur la table. C'est ainsi que les choses se sont passées. Je suis assis à ma table. J'ai bu du thé et le domestique vient d'enlever les couverts. Je me suis enquis de l'heure, car ma montre ne fonctionne qu'imparfaitement. 17h15, il est 17h15. Je sais que si je relève la tête maintenant, Clarimonde fera quelque chose que je devrais faire également, après elle. Je regarde, malgré tout. Elle est là, debout, et sourit. Ah, si je pouvais détourner mon regard, elle se dirige à présent vers le rideau, en détache le cordon, rouge comme celui de ma propre fenêtre, elle y tresse un nœud coulant et accroche le cordon au crampon de la croisée, puis elle se rassied et sourit. Non, on ne peut plus appeler angoisse ce que je ressens. C'est une effrayante et prenante terreur que je ne voudrais cependant échanger pour rien au monde. C'est une contrainte d'une telle intensité et pourtant si étrangement voluptueuse dans son inévitable atrocité. Je pourrais me précipiter de suite et faire ce qu'elle veut. Pourtant, j'attends, combats et me défends. Je sens que la tension grandit de minute en minute. Voilà, je suis assis de nouveau. Je me suis vite précipité et j'ai fait ce qu'elle voulait. J'ai pris le cordon, j'ai tressé un nœud coulant et je l'ai fixé au crampon. Et à présent, je ne veux plus lever les yeux. Je veux seulement fixer, assis à ma place, mon papier. Car je sais ce qu'elle va faire si je la regarde maintenant, à l'instant de la sixième heure de l'avant-dernier jour de la semaine. Si je la regarde, je devrais faire ce qu'elle veut. Je devrais alors... Je ne veux pas la regarder. Brusquement, j'éclate de rire. Non, ce n'est pas moi qui ris. Quelque chose rit en moi. Je sais pourquoi, c'est à propos de ce « je ne veux pas ». Je ne veux pas et je sais pourtant que je dois la regarder. Il le faut, je dois le faire, cela et puis le reste. J'attends seulement pour reculer plus loin l'échéance de ces tortures. Oui, c'est cela, pour différer ces souffrances suffocantes empreintes du plus grand plaisir. J'écris, vite, plus vite, pour pouvoir rester assis ici plus longtemps, pour prolonger ces secondes de douleur qui font croître au paroxysme ces voluptés de mon amour. Encore plus longtemps. Encore la peur, de rechef. Je sais que je vais la regarder, me lèverai et irai me pendre. Ce n'est pas de cela que j'ai peur, non, car c'est beau et délicieux. Mais il y a encore quelque chose d'autre qui doit survenir ensuite. J'ignore ce que ce sera, mais cela viendra sûrement. La joie de mes souffrances est telle que je sens qu'elle doit être suivie de quelque chose d'horrible. Surtout ne pas penser. Écrire quelque chose, n'importe quoi, mais vite. Surtout ne pas réfléchir. Mon nom, Richard Braquemont. Richard Braquemont. Oh, je ne puis poursuivre. Richard Braquemont. Maintenant, il me faut la regarder. Richard Braquemont, je dois... Non, encore plus. Richard Braque... Le commissaire du 9e arrondissement, qui n'avait pas obtenu de réponse malgré ses appels téléphoniques réitérés, fit irruption à 18h05 à l'hôtel Stevens. Dans la chambre 7, il découvrit le cadavre de l'étudiant Richard Braquemont, pendu à la croisée, dans la même position que ses trois prédécesseurs. Seul, le visage avait une expression différente. Il était figé dans une horreur indicible, les yeux exorbités et grands ouverts. Les lèvres étaient révulsées et les puissantes mâchoires convulsivement serrées. Entre elles, on remarquait démantelée et déchiquetée une volumineuse araignée noire, recouverte d'étranges mouchetures violettes. Sur la table gisait le journal de l'étudiant. Le commissaire le lut et se rendit immédiatement dans la maison d'en face. Il constata que le deuxième étage était vide et inoccupé depuis plusieurs mois. C'était « L'araignée » de Hans Heinz Evers.